Bienvenue pour cette nouvelle conférence de la librairie Jean Calvin dans ce cycle consacré cette année aux protestants parlent. Nous avons décliné déjà ici à Alès, mais aussi à Paris, à Aix-en-Provence, à Metz et à Cholet cette thématique selon différents aspects. Ce soir, nous abordons un aspect que nous avons peu exploré, pour employer un terme qui convient à la conférence de ce soir, un aspect que nous avons peu exploré, à savoir le travail missionnaire. Au travers d'une figure qui m'a beaucoup plu en découvrant le livre de Marie-Claude Barbier-Mosimane, ce livre qui nous fait découvrir la figure de Livingstone, ou approfondir cette figure pour ceux qui la connaissent, mais elle est très peu connue en France malgré tout. Et en découvrant ce livre, on découvre un Livingstone beaucoup plus complexe qu'on l'a imaginé, ou qu'on a pu se le représenter. Un Livingstone qui est, bien sûr, un missionnaire au départ, qui sera très vite explorateur, et aussi, pour ma part, c'est ce que j'ai retenu de ce livre, surtout scientifique. La conférence de ce soir va tenter d'explorer cette personnalité complexe de Livingstone, et en s'attachant à montrer finalement peut-être quel élément ressort le plus dans sa trajectoire, notamment dans son travail en Afrique. Au travers donc de cette conférence qui va nous occuper pendant à peu près 45-50 minutes, et puis après quoi on aura un temps de questions. Alors Marie-Claire Barbier-Mosimane n'est pas seulement l'auteur de cette biographie que je vous recommande vivement, elle est maître de conférence honoraire de l'école normale supérieure de Cachan. Elle était spécialiste de l'Afrique australe, et donc elle a consacré une très grande partie de sa vie, de ses recherches, aux thématiques qui touchent à l'Afrique australe, à Livingstone, pas seulement à Livingstone, à Casalis aussi, puisqu'elle a publié un ouvrage aussi sur ce Béarnais, Alfred Casalis, qui a aussi œuvré en Afrique. Eugène Casalis, c'est un autre. Oui, c'est le père. Voilà. Donc, on laisse maintenant la parole à Marie-Claude Barbier-Mosimane pour cette conférence.
Écoutez, merci beaucoup, Franck-Edouard, de m'avoir invité ici. Je suis très content d'être à Alès, que je ne connaissais pas. Merci à tous de vous être. Oui, c'est un manque. Voilà, c'est un manque, et c'est vrai qu'il y a des paysages absolument superbes. Donc voilà. Donc je vais vous parler de ce personnage assez ambigu, qu'est Livingstone. Franck Belloir vous a dit que j'avais aussi écrit un livre sur Casalis. J'ai passé 3 ans avec Eugène Casalis à écrire ce livre avec énormément de plaisir, parce que c'est une personnalité extrêmement chaleureuse et plaisante. Et je dois dire que les 2 ans que j'ai passés avec Livingstone étaient extrêmement intéressants, parce que j'y ai appris énormément de choses et qu'il a fait des découvertes remarquables. Mais au point de vue humain, il ne vaut pas Eugène Casalis, il faut le dire. Alors, Livingstone, donc, je pense, effectivement, est assez peu connu en France, alors que c'est un héros extraordinaire en Angleterre, un héros de l'époque victorienne. Et il faut dire qu'il a eu une trajectoire tout à fait hors du commun, puisqu'il est né en 1813 dans une petite ville industrielle de l'Écosse, dans une famille extrêmement modeste, et qu'il a terminé sa vie ou sa mort dans l'abbaye de Westminster, enterré dans l'abbaye de Westminster au milieu des rois et des reines anglais et des célébrités de l'Angleterre. Donc c'est vraiment une trajectoire un petit peu exceptionnelle. Donc je vais essayer de vous la retracer assez brièvement, vu le temps imparti. Donc il y aura pas mal de manques. Libre à vous ensuite de poser des questions pour que je puisse approfondir peut-être certains aspects. Donc David Livingstone est né en 1813. Il vaut mieux que je recule. Vous m'entendez correctement ? Il est né en 1813 dans une petite ville d'Écosse qui est à 20 km, 15 km au sud de Glasgow, et qui s'appelle Blantyre, et qui était donc, je ne dirais pas célèbre, mais qui était importante à l'époque parce qu'elle avait d'énormes usines de filature. Alors, David Livingstone est né dans une famille presbytérienne. Vous savez peut-être que le presbytérianisme est la religion officielle de l'Écosse. Celui qui a fondé le presbytérianisme est John Knox, qui a été un élève de Calvin. Donc il y avait pour Livingstone, pour le jeune Livingstone, dit-il, cette menace de la prédestination qui a pesé sur toute son enfance et toute son adolescence. Et il dit que ça a vraiment été un poids difficile à vivre pour lui. Alors cette petite ville de Blantyre donc avait des filatures importantes, et une politique peut-être un peu paternaliste de la part des directeurs des filatures qui logeaient les ouvriers sur le terrain de l'usine. Donc il y avait une espèce de logement social, si vous voulez, pour les ouvriers. Et il y avait aussi des écoles dont va bénéficier, enfin une école, dont va bénéficier le jeune David Livingstone. Alors, il va à l'école jusqu'à 10 ans, et comme la famille a peu de moyens, on va le mettre au travail à la filature dès l'âge de 10 ans. Alors, on utilisait beaucoup d'enfants dans les filatures parce que les adultes avaient en charge plusieurs métiers à tisser, on tissait du coton, et les enfants étaient chargés, ils étaient à genoux sous les métiers à tisser, et il fallait rapiécer. Si jamais le fil se rompait, ça pouvait faire un trou dans le coton, dans la trame, et les enfants donc passaient leur journée à genoux, à rapiécer, à renouer les fils qui se rompaient. Donc un travail, vous l'imaginez, extrêmement difficile. On a calculé qu'ils faisaient à peu près 30 km à genoux par semaine, dans des conditions très dures, puisqu'ils travaillaient de 6 h du matin à 6 h du soir, avec juste une petite coupure, dans une atmosphère très chaude et très humide. Il fallait parfois leur balancer des seaux d'eau pour qu'ils se réveillent, qu'ils arrivent à tenir. Donc une enfance difficile et une adolescence difficile, puisqu'il va travailler entre l'âge il rentre à 10 ans à la filature et jusqu'à l'âge de 21 ans où on va voir qu'il se passe quelque chose. Donc ces années sont assez difficiles, et à l'âge de 21 ans exactement, il va se passer un événement qui va changer un petit peu le cours de son destin, parce qu'il se voyait travaillant à la filature jusqu'à la fin de sa vie. Et puis dans le temple, je ne sais pas si on peut dire église au sens général, à laquelle appartenaient ses parents, alors qu'il a 21 ans, on va distribuer un dimanche des tracts qui viennent d'un missionnaire britannique qui est en Chine, et qu'il dit qu'en Chine il y a un champ de mission extraordinaire pour les jeunes gens. Et donc, ce serait bien d'envoyer des jeunes gens en Chine. Enfin, il faudrait susciter des vocations dans ce sens. Mais il va ajouter quelque chose d'important. Il va dire que le mieux, le plus, serait que ces jeunes gens soient aussi médecins. Parce que si on soigne quelqu'un, si on guérit quelqu'un, cette personne va vous être reconnaissante et elle sera plus à même d'écouter le message que vous avez à transmettre. Et ça va être un déclic pour Livingstone. Et il va dire à son père, voilà ce que je veux faire, parce que le père n'aurait pas accepté. Il avait un petit peu tenté sa voie du côté de la médecine, mais le père trouvait qu'il fallait un travail qui aussi honore Dieu et serve Dieu. Donc là, le père accepte, et il va encore donc travailler pendant 2 ans, de façon à mettre suffisamment d'argent de côté pour aller faire ses études de médecine dans la ville de Glasgow, qui est à 20 km au nord. Alors les études de médecine, à l'époque, il y aurait beaucoup à en dire, on n'y apprend pas grand-chose vraiment de très très utile. Mais enfin bon, on exige d'ailleurs comme première condition pour faire des études de médecine de parler latin. Voilà. Le reste est accessoire. Donc il va faire 2 ans de médecine à Glasgow, et au cours de la deuxième année, il se dit, il faut quand même que je pense à un champ de mission. Il a toujours cette idée d'aller en Chine quand même. Donc il va contacter diverses sociétés missionnaires, mais il y en a une qui va lui plaire particulièrement, qui est ce qu'on appelle la London Missionary Society, qu'on a, je pense, appelé en français couramment la Mission de Londres, qui avait l'avantage, d'une part, d'accepter à peu près toutes les dénominations, pouviez être presbytérien, méthodiste, baptiste, enfin, ils acceptaient tout le monde. Et en plus, cette société avait un champ de mission extrêmement vaste, dont la Chine. Donc Livingstone pose sa candidature, est accepté et va faire au cours de ses études de médecine un stage de six mois pour donc apprendre à être missionnaire. Donc on arrive en 1940, puisqu'il a repris ses études assez tard. Il a donc 1840. Il a pris ses études assez tard, et donc en 1840, il est prêt, il est à la fois médecin et missionnaire, il est prêt à partir en Chine. Seulement, je ne sais pas si ça évoque quelque chose, cette date de 1840. En 1840, il va se passer quelque chose qui est peut-être assez peu connu en France, mais qui a eu un grand retentissement en Angleterre. C'est la première guerre de l'opium. Alors, première guerre de l'opium, les Chinois ferment tous les ports aux navires étrangers. Donc, plus question de partir en Chine. Donc, il faut se reconvertir, il faut trouver autre chose. Alors, en simplifiant un peu l'histoire, disons qu'il rencontre à ce moment-là, à Londres, un personnage tout à fait charismatique et extraordinaire qui s'appelle Robert Moffat, qui était un grand, grand missionnaire de la Mission de Londres, parce qu'il est le premier Parmi les missionnaires envoyés en Afrique du Sud, dans ce qu'on appelle la colonie du Cap, je vous montrerai la carte tout à l'heure, il est le premier à avoir franchi les limites de la civilisation, comme on disait à l'époque, pour s'installer dans ce qui s'appelait à l'époque le Bechuanaland, qui correspond au Botswana actuel. Vous voyez, c'est juste au nord de l'Afrique du Sud. Et là, ce Robert Moffat, qui est écossais comme Livingstone, qui est autodidacte comme Livingstone, a fondé une mission modèle extraordinaire avec beaucoup de convertis, qui est un peu la fierté de la mission de Londres. Donc Livingstone rencontre Moffat, et Moffat se trouve en Angleterre parce que, en plus de tout son travail de missionnaire, il a transcrit la langue des Bechuana, le Tswana, et c'était des langues orales, toutes ces langues bantoues étaient des langues orales. Il l'a transcrit, il a fait un premier lexique Tswana anglais, et il vient traduire une partie de la Bible en Tswana. Donc il est venu à Londres pour chercher une presse d'imprimerie pour sortir des Bibles, pour distribuer des Bibles et puis d'autres écrits religieux, pour distribuer à ses fidèles. Et il dit, alors il se trouve que Moffat était un grand orateur, donc partout où il passait, les gens venaient l'écouter, et ça rapportait de l'argent aux missions. Évidemment, il y avait une collecte pour les missions à la fin. Donc la mission de Londres lui suggère de rester un petit peu plus longtemps en Angleterre parce que ça va ramener de l'argent. Et Moffat propose à Livingstone, il lui dit, puisque vous voulez de l'exotisme, partir assez loin, l'Afrique du Sud, voilà, vous attend, surtout ma mission de Kuruman, qui en plus est en dehors des limites colonisées jusque-là. Et Livingstone, donc, va accepter de partir à Kuruman. Alors, il va s'embarquer pour l'Afrique du Sud en 1841, et il va mettre à profit donc les 2 mois quand même que dure le passage en bateau jusqu'au Cap, pour apprendre un petit peu le Tswana avec le lexique de son beau-père. Alors, je voudrais vous montrer la carte. Alors, comment je compte sur vous pour montrer les cartes. Mais alors, je ne sais pas ce que ça va trop donner, là. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas celle-là, ce serait plutôt une autre carte. Voilà, c'est celle-là. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez. Hein, c'est, si vous arrivez à peu près à voir. Donc, alors, ce qui se passe, c'est, si vous voulez soulever un tout petit peu, voilà. Voilà. Alors, ce qui se passe, donc, il arrive d'Angleterre et il va... Pas trop. Vu ma taille, je vais avoir des problèmes. Non, je ne vais pas grimper sur la chaise. Voilà. Donc, il va arriver au Cap et... Ça, c'est la partie colonisée de l'Afrique du Sud. Alors, je voudrais simplement revenir très rapidement en arrière pour vous parler donc de cette... je vais me remettre... Ah, pardon. Alors là, ça devient un peu délicat. pour vous remettre un petit peu à l'esprit l'histoire de l'Afrique du Sud, qui, je pense, est assez mal connue en France puisque ça ne faisait pas partie de nos anciennes colonies. Alors, l'Afrique du Sud a été... Enfin, la première fois que des Européens ont touché terre en Afrique du Sud, c'est en 1488, 4 ans avant la découverte de l'Amérique, pour vous donner un repère. Et ce sont les Portugais, qui étaient de très très hardis navigateurs et qui ont à peu près cartographié toutes les côtes d'Afrique, qui ont franchi les premiers, donc cette partie, vous voyez, cette petite languette ici, qui est la péninsule du Cap, avec le Cap de Bonne-Espérance au bout. Et c'est là que l'Atlantique et les eaux de l'Atlantique et les eaux de l'océan Indien se rejoignent. Et donc, quand on franchit ce cap, qui est un petit peu difficile parfois, on rentre dans des eaux plus paisibles de l'océan Indien. Donc, le Portugais, qui s'appelait Bartolomeo Dias, a franchi en 1488 ce cap de Bonne-Espérance, sans bien s'en rendre compte d'ailleurs, et il va accoster... Alors, je ne vois pas bien, mais je pense que c'est là, c'est Port-Élisabeth. Voilà, il va accoster un petit peu plus loin dans une anse, où il va rencontrer les premiers autochtones, qui d'ailleurs ne sont pas... Des Noirs africains, puisque la population originelle d'Afrique du Sud était ce qu'on a appelé en français les Hottentots, qu'on appelle maintenant les Khoikhoi. Donc c'était des populations un peu plus claires, avec un cheveu très crépus, et qui parlent une langue assez intéressante à base de clics. Donc quand on les entend parler, parce qu'il y a encore ça a influencé certaines langues noires, et il y a ces clics qui sont assez particuliers. Donc les Portugais donc, vont accoster là, et en fait, c'est quelque chose de très novateur parce qu'à l'époque, tout le commerce vers l'Orient qui se développait avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Indonésie, etc., était monopole de Venise, passé par la Méditerranée. Donc les Portugais vont ouvrir une nouvelle route pour aller vers l'Orient. Et donc pendant les années qui suivent, les décennies qui suivent, plein de navires vont donc doubler ce cap de Bonne-Espérance pour aller vers l'Orient. Parmi toutes ces populations, il y a surtout les Hollandais, les Néerlandais, qui avaient des colonies en Indonésie. Et c'est eux qui, les premiers, en 1652, se disent que ce ne serait pas mal d'avoir une escale fixe pour les navires qui vont en Indonésie. C'est un trajet très très long, vous l'imaginez, et ces navires sont obligés de relâcher pour avoir de l'eau, des fruits, de la viande, etc. Et ils ont vu donc dans la baie, la petite baie qui se trouve ici, alors on ne voit plus tellement, hein, il y a une péninsule donc ici, et de l'autre côté de la péninsule, côté océan Indien, il y a une grande baie qui est la ville du Cap à l'heure actuelle, qu'on appelle la baie de la Table, parce qu'au-dessus il y a une montagne qui est toute plate, qui ressemble à une table. Et ils vont créer donc là la première station de ravitaillement pour tous ces navires, dont profiteront non seulement les Néerlandais, mais au besoin d'autres, les Portugais comme les Français, etc. Alors ça, c'est en 1652, et très rapidement, effectivement, les navires prennent l'habitude de s'arrêter dans cette baie pour se ravitailler, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de besoins, et que les Hollandais vont demander à ce qu'on leur donne de la terre pour cultiver, pour pouvoir vendre aux bateaux, etc. Ces Hollandais cultivateurs, fermiers, s'appellent des boers, parce qu'en anglais, en hollandais, pardon, boer veut dire paysan. Donc les premiers boers vont s'implanter, et très rapidement, ils vont occuper toute voyez, cette partie en blanc de la province. Voilà, donc quand on parle de la province du Cap, on parle donc de du Cap qui est là et de l'arrière-pays autour du Cap. Alors pour sauter rapidement les étapes, en 1815, après le congrès de Vienne, à la fin des guerres napoléoniennes, les Anglais vont racheter la province du Cap aux Néerlandais. Donc à ce moment-là, la province devient anglaise et les Anglais commencent à y envoyer des missionnaires. Alors parmi les premiers, il y en a eu quelques-uns qui étaient partis déjà avant, mais parmi les premiers, donc il y a Moffat qui va laisser son nom comme étant vraiment un missionnaire absolument extraordinaire. Donc Livingstone va arriver au Cap avec quand même quelques rudiments de Tswana qu'il a appris sur le bateau. Il est son caractère un petit peu acerbe qui contraste beaucoup avec Eugène Casalis qui était là 7 ans auparavant et qui dit que le Cap c'est extraordinaire, c'est idyllique, etc. Lui, Livingstone, dit « Oh là là, c'est plein d'Européens, c'est pas marrant du tout, vivement que je parte. » Et il va prendre, alors ça c'est ce qui se passe systématiquement à cette époque-là, vous pouvez le lever un tout petit peu plus peut-être. C'est-à-dire que, voyez, la mission où il va aller, Kuruman, se trouve juste en haut. Donc on pourrait penser qu'il va monter tout droit vers Kuruman, mais en fait ici, il y a un grand désert qui s'appelle le Karoo, ce qui fait qu'il est habituel quand on arrive au Cap et qu'on veut aller vers le nord, de prendre un bateau jusqu'à Port-Élisabeth et après de partir à partir de Port-Élisabeth. Port-Élisabeth étant une ville où il y a absolument tout ce dont on peut avoir besoin pour faire un voyage important vers l'intérieur, à savoir, comme dans l'Ouest américain, des chariots bâchés qui vont être tirés par 4 ou 6 bœufs et puis de tout le ravitaillement dont on peut avoir besoin. Donc Livingstone va partir à Port-Élisabeth et de là donc acheter ses bœufs, acheter ses chariots bâchés, le ravitaillement et partir donc vers Kuruman, vous voyez donc en territoire inconnu. Il va lui falloir quand même plus de 2 mois pour arriver à Kuruman. Alors il arrive à Kuruman, mission de Moffat donc où il est censé prendre la suite et là il est déçu encore une fois parce que c'est vraiment pas quelqu'un qui a un caractère heureux. Et il trouve que cette mission elle est un peu minable. Moffat avait fait des descriptions évidemment assez enthousiaste pour que les gens après contribuent à la mission. Donc il trouve qu'elle est un peu poussiéreuse, il y a des gens qui sont là, des convertis qui ont l'air très tièdes, et bon, rien de très très galvanisant, disons. Donc très rapidement, il va commencer à explorer les alentours, parce que Moffat lui avait dit, lorsque je reviendrai, vous pourrez vous installer avec votre propre mission ailleurs. Donc il commence à explorer les alentours, ça lui permet d'ailleurs de pratiquer son tswana, de rencontrer les chefs des différentes tribus, de se rendre compte que quand il parle évangile, ça ne les intéresse absolument pas. Ce qu'il voit dans le blanc, c'est la possibilité de se procurer des armes ou des choses dont ils peuvent avoir besoin, ou même les connaissances médicales de Livingstone peuvent servir, encore qu'elles étaient quand même assez limitées, comme je vous ai dit, vu les études de médecine. Mais il va explorer, et il va explorer un petit peu loin, puisqu'il va aller jusqu'à un endroit qui est à 200 km à peu près au nord, 200 ou 300 km, où là, il y a un chef qui a l'air un petit peu plus réceptif que les autres, qui s'appelle Ségélé. Et puis, il revient à Kuruman, et il apprend que les Moffat vont revenir. Alors il commence à préparer, il avait commencé un petit peu à préparer sa mission suivante, qui était à une 100 de kilomètres de là. Les Moffat reviennent. Alors les Moffat, quand j'ai parlé de Robert Moffat, mais il était marié, il a eu 10 enfants d'ailleurs, et ils ont... je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc les Moffat reviennent, il va à leur rencontre, il reste quelque temps avec eux à Kourouman, et vite il se dépêche d'aller dans sa mission où il est donc seul, ce qu'il aime finalement, il aime cette solitude. Et puis va se passer à ce moment-là un incident qui va vous paraître extrêmement anecdotique quand je vais vous le dire, mais qui va avoir des conséquences lointaines doubles. Un soir qu'il rentre chez lui, il voit pas loin de sa maison, sur un gros rocher, un lion, un énorme lion. Et alors, il ne fait ni une ni deux, les missionnaires se promenaient toujours avec leurs fusils. Hein. C'était pareil pour Casali, ils avaient toujours un fusil sur eux parce qu'il y avait des bêtes sauvages quand même un peu partout. Alors, sans réfléchir, parce que s'il avait réfléchi, il ne l'aurait peut-être pas fait, il tire sur le lion. Le lion n'est pas mort, il est blessé. Donc, que fait le lion? Il lui saute dessus et il commence à lui déchiqueter l'épaule. Il dit dans ses mémoires, il m'a secoué comme un ratier le ferait avec un rat. Et il, non seulement il déchiquette l'épaule, mais il lui abîme l'humérus. La tête de l'humérus est sérieusement abîmée. Donc les Africains arrivent, tuent le lion, fin de l'épisode, théoriquement. Parce qu'en fait, malgré ses talents de médecin, la blessure va s'infecter. Et au bout de 3 semaines, il a du mal à se servir du bras, il ne peut plus faire grand-chose. Il décide de revenir à Kourouman, où la famille Moffat a davantage de médicaments, enfin, etc. Et il arrive à Kourouman, et à ce moment-là, c'est la fille aînée des Moffat, qui s'appelait Marie, qui avait 22 ans, lui en avait 32, qui va s'occuper de lui panser sa blessure. Et alors, là va se passer quelque chose qui ne relève pas du tout du coup de foudre, mais qui relève un petit peu de, bon, finalement, cette jeune fille. D'abord, il n'y a pas de femme blanche dans la région, donc le choix était quand même très, très limité. Et cette jeune fille, elle a été élevée, elle parle Swana couramment, puisqu'elle est née à la mission, elle sait faire tout ce que doit faire la femme d'un missionnaire. Donc, malgré tout, ce serait peut-être pas mal, surtout qu'il a remarqué, et ça, Casalis le dit aussi, qu'il y a une certaine suspicion envers les hommes non mariés. On se demande pourquoi ils ne sont pas mariés. Donc, une femme est un atout supplémentaire. Donc, il fait une cour rondement menée, et j'ai une photo de Marie, d'ailleurs, pour vous montrer, parce qu'il fait des descriptions à un ami qui dit qu'elle n'est pas terrible, terrible, elle est plutôt un peu ronde, pas très jolie. Et alors, vous allez voir, Marie, bon, effectivement, elle... Enfin, il faut dire qu'avec à l'époque, avec tous ses habits, etc. Bon. Voilà, donc ils vont se marier. Et alors, petit point de détail pour nous, pour vous, protestants français, le mariage va être célébré par un Français, puisque la mission de Londres avait des liens étroits avec la mission de Paris, qu'on appelait la SMEP à l'époque. Et la SMEP a envoyé des missionnaires en Afrique du Sud à la demande de la mission de Londres, pour s'occuper des descendants des Huguenots qui avaient fui après l'édit de Nantes. Et certains de ces Huguenots, c'est pareil, il y avait pas mal de Huguenots, pardon, certains de ces missionnaires ne sont pas restés, ils n'avaient pas besoin d'énormément de missionnaires, et sont partis, donc beaucoup rejoignent Kourouman et les environs. Et donc il y a un missionnaire qui s'appelait Prosper Lemu, qui a voyagé en partie avec Eugène Casalis, qui va marier Livingston et Marie Moffat, par un jour qui sentait bon le mimosa dit Livingston. Et d'ailleurs, un an après, la sœur de Marie, qui s'appelle Anne, va épouser un autre missionnaire français qui était dans le coin, qui s'appelait Jean Frédou. Je ne sais pas d'où est Jean Frédou. Voilà, donc ils se marient et ils partent aussitôt donc, vivre dans la petite mission à une 100 de kilomètres qu'avait commencé à bâtir Livingston. À partir de là, et pendant les 6 années qui vont suivre, Marie va se retrouver enceinte pratiquement chaque année. Elle aura un enfant par an. Donc il reste 2 ans dans cette petite ville de Mabotsa où il y a eu l'épisode du lion. Et puis, pareil, il n'y a pas de convertis, il n'arrive pas à faire passer le message. Donc il se dit qu'il va aller voir ailleurs s'il y a des gens plus réceptifs. Donc il pense à ce chef qu'il avait rencontré précédemment dans ses pérégrinations, Séchélé. Et il va donc chez Séchélé. Alors peut-être que l'autre carte là, serait plus appropriée, surtout que le soleil baissant, ça sera peut-être plus clair. Alors... On reviendra peut-être sur celle-là à la fin. Non, c'est l'autre. Voilà, je ne sais pas si on peut un peu l'agrandir. Ça vous montre peut-être un peu plus clairement, vous voyez, le cap avec la péninsule, donc Port-Élisabeth, d'où il est parti, et il monte donc à Kourouman, qui est là. Ensuite, il va établir une première mission à Mabotsa, Bon, j'ai marqué ça, mais ça n'est pas très important. Et ensuite, le chef se trouve donc là à Kolobeng, où il va passer donc 3-4 années avec Marie, en faisant des enfants chaque fois. Et là, il va se... Évidemment, il sent qu'il n'y a pas beaucoup de points de comment dirais-je, où on peut s'arrêter lorsqu'on est voyageur en Afrique. Donc, ils vont prendre l'habitude de recevoir les quelques voyageurs qui passent. Et en particulier, à l'époque, il y avait des chasseurs. Les Anglais étaient déjà amateurs de gros gibier. Et pas mal d'entre eux allaient chasser au Botswana. Enfin, pas mal. Quelques-uns allaient chasser au Botswana. Et en particulier, il va y avoir un personnage qui va être récurrent dans sa vie, qui s'appelle Oswell, qui est un riche Anglais, qui appartient à l'armée des Indes, mais dans des grades assez élevés, il n'a pas besoin d'être très présent. Et il va donc assez régulièrement venir chez les Livingstone à Kolobeng avant de faire ses expéditions de chasse. Et Livingstone, alors il est à Kolobeng, il a fini par convertir le roi, mais ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis apparemment, il n'a pas quand même un goût énorme à transmettre, à faire passer le message. Donc il rêve encore d'aller plus loin. C'est quelqu'un qui a toujours voulu aller ailleurs, qui a toujours pensé que ça serait mieux ailleurs. Donc il entend parler, quand il est à Kolobeng, il entend parler d'un lac qui est là, et puis d'un très grand fleuve extraordinaire qui coulerait au nord de ce lac, dont il n'a pas encore le nom, puisque le Zambèze sera donné plus tard. Seulement, pour aller de Kolobeng à ce lac, il faut traverser cette partie-là, qui est le désert du Kalahari. Alors, le désert du Kalahari, personne n'a réussi... Enfin, il y a des bushmen dans le désert du Kalahari. Vous savez, vous avez dû voir le film, peut-être les dieux sont tombés sur la tête, ces petits bushmen, qui sont des chasseurs-cueilleurs, qui sont restés au stade du chasseur-cueilleur, mais qui savent survivre dans le désert où ils ont été repoussés un peu par les conquérants différents. Et dans ce Kalahari, c'est un désert sans eau, sans nourriture, et on avance à pied ou à dos de bœuf. Le bœuf était un animal de monte aussi à l'époque. Hein, les chevaux ne résistaient pas bien, mais le bœuf, oui. Donc il va essayer de convaincre Oswell de partir avec lui, surtout que Livingstone n'a pas d'argent, il a son tout petit salaire de missionnaire, mais pas beaucoup d'argent, alors qu'Oswell a beaucoup d'argent. Et il va le persuader de tenter donc cette première traversée par un Européen du désert du Kalahari. Et il va réussir. Donc avec Oswell, ils arrivent finalement sur le lac Gnami. Et il a entendu parler qu'au-delà du lac Gnami, il y avait ce grand fleuve extraordinaire qui coulait, mais il y avait aussi une tribu qui s'appelait les Makololo. Et ces Makololo, disait-on, seraient prêts à recevoir le message de l'Évangile. Donc son but, c'est d'aller retrouver les Makololo. Alors il revient une première fois avec Oswell, parce que le temps passe quand même, et il décide aussitôt de repartir l'année suivante. Oui, parce que j'ai oublié un tout petit détail. Quand ils veulent traverser la rivière pour aller vers là, on leur refuse le passage, on ne veut pas leur passer de bateau. Donc il se dit, en fait, si j'amène avec moi ma femme, Marie Moffat, il faut dire que le nom de Moffat était célèbre en Angleterre, mais en Afrique, la plupart des chefs noirs avaient entendu parler de Moffat. Donc c'était vraiment un personnage assez extraordinaire. Donc si j'amène avec moi ma femme, Marie, la fille du grand Moffat, ça serait un plus. Donc il décide de repartir avec Marie, trois enfants en bas âge et Marie enceinte du quatrième. Donc ils vont traverser le Kalahari. Vous imaginez dans quel état de faiblesse déjà la femme et les enfants étaient à l'autre bout. Et arriver sur les bords de la rivière Kobe, donc qui donne dans le Zambèze. Oui, je pense que vous voyez un peu Kobe. Les enfants sont atteints de paludisme, ont des fièvres extrêmement fortes, atteints de dysenterie, Marie est épuisée, donc il est obligé de faire demi-tour. Donc ils reviennent encore une fois à Kolobeng, et l'année suivante, il repart avec Oswell aussi, toujours avec eux. Et cette fois-ci, alors j'ai oublié de vous dire qu'au retour, Marie accouche 2 jours après le retour d'une petite fille qui ne va pas vivre, parce qu'évidemment, avec les conditions qu'a connues sa maman, ça aurait été un petit peu difficile. Et il décide de repartir l'année suivante, toujours ses trois enfants, Marie enceinte encore une fois de notre enfant. Ils arrivent encore une fois sur le Kobe, et là, il se rend compte que c'est quand même trop compliqué d'amener femme et enfant, donc il va les laisser à l'attendre, et il part avec Oswell, où il va rencontrer cette fois-ci le fameux roi des Makololo, qui leur fait un très bon accueil, et qui les amène voir cette grande rivière dont il avait entendu parler, qui le faisait rêver, qui est le Zambèze. Et là, il le voit à un endroit qui n'est pas celui auquel vous pensez, qui est juste ici. Je ne sais pas si j'ai... écrit, je ne vois pas bien. C'est une petite ville qui s'appelle Sécheké. C'est là qu'il a prêché pour la première fois l'évangile, donc au nord du Kalahari, que l'évangile a été prêché pour la première fois au nord du Kalahari. Et à l'heure actuelle, il y a une mission écossaise, la mission de Mwandi, qui fait un travail tout à fait remarquable, qui a été bâti précisément autour de l'arbre sous lequel Livingstone aurait fait pour la première fois, donc aurait prêché pour la première fois l'évangile. Donc ils prennent un premier contact avec le roi, bon, mais il sait que Marie est enceinte, il faut quand même rentrer, donc il rentre, et cette fois-ci, Marie n'a pas le temps d'arriver au bout, elle va accoucher en plein désert du Kalahari. Alors ses connaissances médicales vont l'aider un petit peu quand même, Livingstone, je pense, et ils vont appeler l'enfant, d'ailleurs c'est le dernier garçon, Oswell, comme ce fameux chasseur qui les avait tant aidés tout au long. Donc il rentre à Kolobeng, et là il se dit finalement, une femme et des enfants, ça ne sert pas à grand-chose. C'est plutôt même une gêne qu'autre chose. Donc, je les renvoie en Angleterre. Je les envoie parce qu'en fait, les enfants n'avaient jamais vu l'Angleterre. Marie était passée brièvement avec ses parents, mais c'est tout. Et sans se préoccuper du tout de ce qu'ils allaient devenir, comment ils allaient vivre, vraiment un égoïsme total. Donc, il redescend avec toute la famille au Cap. Il met Marie et les enfants dans un bateau en partance pour l'Angleterre. Et là, il est heureux. Il est heureux parce qu'enfin, seul, il va pouvoir faire tout ce qu'il a envie de faire comme exploration. C'est triste à dire, mais c'est ça. Alors, il va quand même rester un petit peu de temps au Cap pour prendre des leçons avec l'astronome royal. Je ne sais pas si vous savez, mais le Cap a un climat particulièrement clair, enfin des cieux particulièrement clairs, ce qui fait qu'il y a un très, très grand observatoire. Et les Anglais, d'entrée, avaient implanté un observatoire royal. Et il va prendre des cours avec l'astronome royal en chef, pour apprendre à calculer la longitude. La latitude, c'est relativement... Je ne me trompe pas, non, c'est l'inverse. Je ne sais plus, enfin bon, bref. Calculer la longitude grâce à l'angle lunaire. Alors, il y avait des calculs assez compliqués à faire, mais ça lui permettait ensuite de donner des précisions vraiment très fines sur ses déplacements et sur ce qu'il avait pu trouver en chemin. Donc, il passe 3 mois à faire ça, puis il repart vers Kolobeng, où il abandonne joyeusement d'ailleurs son seul et unique converti pour continuer vers le nord, et il part chez les Makololo. Donc il va rester, donc entre-temps le roi était mort, c'est son fils qui a succédé, mais peu importe, et il va passer donc quelques semaines, et il est persuadé que là il a trouvé les gens qui enfin vont recevoir le message. Mais il va déchanter très vite, parce que non seulement personne n'est intéressé par le message, y compris le roi, mais en plus, il se rend compte, horreur, que ces gens font de la traite. Alors, ils vendent, alors déjà, dans les sociétés africaines, il y avait la tradition, si je puis dire, les guerres intertribales servaient à ramener des esclaves donc, chez le vainqueur. Donc, il y a ça. Les prisonniers étaient aussi vendus comme esclaves, et ils étaient, vous voyez, à peu près vers le centre donc, de l'Afrique. Pendant assez longtemps, les Portugais envoyaient des émissaires pour récupérer les esclaves qu'ils envoyaient vers l'Atlantique pour la traite atlantique. Mais depuis quelques années, la traite orientale, la traite qu'on appelle arabo-musulmane, faisait ses ravages, avait pénétré assez loin et rentrait donc jusque-là. Donc Livingstone est absolument atterré, complètement atterré par ce phénomène de la traite. Il pensait qu'on avait aboli la traite en 33, les Anglais avaient aboli la traite en 33, donc que ça avait à peu près disparu, mais pas du tout, du tout, et il va le découvrir de façon assez spectaculaire dans les années suivantes. Donc c'est à ce moment-là qu'il a ce raisonnement assez intéressant. Il se dit, si on pouvait introduire du commerce licite, c'est-à-dire que ces Africains vendent des produits à eux, des produits qu'ils ont, des céréales, de l'indigo, du coton, etc. Et si on leur achetait ces produits, ils pourraient en contrepartie donc acheter eux ce qu'ils voudraient, et ça éliminerait donc ce besoin de vendre des humains pour récupérer de l'argent. Et d'autre part, si on pouvait en même temps implanter des missions, donc on pourrait leur expliquer à quel point c'est mal, et puis eux-mêmes abandonneraient cette idée de traite. Alors, ça, c'est un premier point, mais il se dit, si je veux introduire du commerce licite, il faut que je puisse vendre ces produits. Il me faut des voies d'accès pour pouvoir expédier ces produits vers l'Angleterre, parce que lorsqu'on est au fin fond de l'Afrique, et à cette époque-là, il n'y avait pas la moindre trace de colonisation dans toute cette partie, comment fait-on pour envoyer ces produits à la vente? Et c'est là, donc, que va naître cette idée extraordinaire qu'il a eue, enfin, idée extraordinaire qui va le conduire à un exploit extraordinaire. Il se dit, il faut que je trouve une route, que j'ouvre une route pour aller donc du centre de l'Afrique vers, alors la première idée évidemment, c'est vers l'Atlantique, parce qu'après de l'Atlantique, c'est plus facile pour rejoindre l'Angleterre. Alors il s'ouvre au jeune roi qui n'est pas opposé, qui lui dit même qu'il va lui prêter donc 27 Makololo pour l'accompagner comme porteur dans ce périple. Alors il y aurait beaucoup, alors il y a vraiment un tas d'anecdotes à raconter sur ce périple qui a été quand même dans l'ensemble extrêmement douloureux pour Livingstone. Il a fait 27 crises de paludisme en 9 mois, de la dysenterie pratiquement en permanence, il n'arrive même plus à tenir à dos de bœuf. Et il va donc remonter, voilà, il part de là, sur le Zambèze, il va remonter donc le Zambèze jusqu'à à peu près ici, donc il ne va pas tout à fait jusqu'à la source, et puis il va couper. Alors cette partie entre là et là est une partie de jungle tout à fait inextricable, où il faut vraiment s'ouvrir une route à la machette, avec le palu, les moustiques, les animaux sauvages, enfin voilà, et en plus des tribus de plus en plus hostiles, qui demandent de plus en plus ce qu'ils appellent le hongo, qui est un péage. C'est-à-dire déjà, on ne veut pas leur vendre de nourriture, mais en plus, on leur demande de payer pour passer. Alors, payer, ça ne veut pas dire de l'argent, puisqu'il n'y en avait pas, mais c'était souvent des coquillages, des coris qu'on donnait à la place de l'argent. Et puis, ils demandent de plus en plus des hommes. Ils veulent que Livingstone se défasse des porteurs. Donc, Livingstone ne veut pas, donc ça l'oblige à contourner parfois des villages, en tout cas. Et il arrive à un moment donné, donc, il va arriver dans cette ville ici de Kasangé, qui est en fait un avant-poste portugais. Et là, il est pratiquement à bout. Ils sont tous complètement à bout. Et ils vont être recueillis par une petite troupe de Portugais qui patrouillait un peu dans le coin, qui va les remettre sur pied, qui va les nourrir, qui va s'occuper d'eux, et qui va les remettre en état de repartir vers la côte. Donc, il va arriver, 9 mois après son départ, ou même un peu plus, à Saint-Paul de Luanda, qui est donc, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais l'Afrique, lorsque Livingstone arrive en Afrique, pratiquement pas de colonies européennes, pratiquement pas d'implantations, l'intérieur du continent est absolument inconnu, et il y a en tout et pour tout, donc, ici et de l'autre côté ici, deux petites enclaves portugaises. Donc il sera, là ce sera l'Angola, et après ça sera le Mozambique. Donc les Portugais avaient deux petites implantations, et puis les Néerlandais, puis rachetés par les Anglais, avaient cette colonie du Cap. En haut, du côté de l'arrondi de l'Afrique, il y avait une petite implantation française du côté de Dakar, et une petite implantation anglaise au niveau du Nigeria. Mais tout le reste, c'était vraiment inconnu. Donc il arrive à Saint-Paul de Luanda, il a fait quand même un exploit assez extraordinaire, il a parcouru, je crois que c'était dans les 2500 ou 3000 km à pied, à dos de bœuf, dans des conditions épouvantables, faisant face donc à tout ce que je vous ai dit précédemment, et il va se reposer un petit peu à Saint-Paul de Luanda, où il est fort bien accueilli par les Portugais, donc c'est un territoire portugais, et il y a un consul anglais qui va aussi s'occuper de lui-même le laisser dormir dans son lit, il dit que c'était un luxe extraordinaire, comme un plaisir qu'il avait un peu oublié, dormir dans un lit. Alors, Saint-Paul de Luanda, il est heureux d'être arrivé, comme il a fait un exploit, mais en même temps, le bilan est quand même un peu décevant, en ceci que, visiblement, ce n'est pas une route qui va pouvoir permettre d'acheminer des marchandises. Enfin, il n'y a pas de possibilité réellement de route. Donc, il va revenir donc, assez rapidement et mieux, plus rapidement à l'Ignanti, donc où est le roi, dans la mesure où il sait déjà où il ne faut pas trop passer. Puis, en plus, les Portugais lui ont donné pas mal d'objets de troc pour la route et des provisions. Donc, il revient à l'Ignanti, donc chez le roi, chez les Makololo. Il ramène donc en parfait état les 27 Makololo. C'était quand même un exploit aussi. Qui d'ailleurs vont raconter dans tout le village, ils ont dit, vous ne le croiriez pas, mais nous sommes arrivés au bout de la terre. Ils n'avaient jamais pensé que la terre pouvait s'arrêter et qu'il pouvait y avoir l'eau de l'autre côté. Donc c'était pour eux quelque chose d'extraordinaire. Et là, évidemment, Livingstone, toujours impatient, se dit, bon, ça ne marche pas de ce côté, on va essayer de l'autre. Donc on va essayer si on peut trouver un débouché vers l'océan Indien. Alors l'océan Indien, évidemment, ça implique un tour de l'Afrique beaucoup plus long pour écouler les marchandises, mais plutôt que rien, c'est mieux. Pourquoi pas? Et en plus, il y aurait un atout peut-être, qui est le fleuve Zambèze, donc qui était juste au-dessus de chez le roi, au-dessus de la tribu des Makololo, et qui va se jeter dans l'océan Indien. Donc, se dit-il, je vais explorer de l'autre côté. Donc le roi est encore d'accord et va lui prêter cette fois-ci un petit groupe d'hommes plus important, puisqu'il aura 117 Makololo qui vont l'aider à porter. Alors son but, c'est d'une part de voir si le fleuve est navigable et si on peut donc écouler de la marchandise par là, et aussi de trouver des terrains où implanter des missions, de trouver un ou deux terrains, parce que de l'autre côté, de toute évidence, il n'y avait aucune possibilité pour ça. Donc le voilà parti, et le roi décide de l'escorter pendant un petit bout de chemin, et il va l'escorter jusqu'à cet endroit qui a fait rêver après des générations d'Anglais et d'autres, qui est les fameuses chutes donc, qui s'appellent Mosi-Oatunya, qui veut dire la forêt qui gronde, la fumée qui gronde comme le tonnerre, et qu'il va rebaptiser les chutes Victoria en l'honneur de sa reine. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir qu'il a fait une description des chutes Victoria. La première description qu'il a faite n'était pas particulièrement enthousiaste, et c'est à la demande de son éditeur qui va étoffer un peu le récit. Et pour avoir fait l'expérience moi-même, suivant qu'on la voit en saison sèche, qu'on les voit en saison sèche ou en saison des pluies, c'est totalement, totalement différent. Et on peut comprendre, donc, c'était la saison sèche, qui n'est pas vraiment appréciée. Donc le roi le laisse à ce moment-là et le voilà parti donc, pour le Zambèze. Alors il va quand même s'écarter à plusieurs reprises du Zambèze, qui sera un problème pour la suite. D'abord parce qu'il va, à ce niveau-là, il a entendu parler d'un plateau, d'un haut plateau qui s'appelle le plateau des Batoka, sur lequel, pense-t-il, il pourrait implanter une mission. C'est un plateau haut, donc l'air est plus sain, mais il passe sous silence qu'il y a malgré tout du paludisme, la mouche tsetse, qu'il y a une tribu féroce de l'autre côté de la rivière, etc. Bon, il reconnaît ce plateau, il redescend sur le Zambèze, et puis c'est pareil, il y a un tas de problèmes d'approvisionnement, il est fatigué, il fait des crises de palu, il a des ulcères dans les jambes, donc il va commettre une erreur, si on peut dire, dont il ne se rend pas compte à l'époque, c'est qu'il va, au lieu de suivre le Zambèze comme ça, il va couper ici, pour aller plus vite, pour arriver plus vite sur la côte, et en coupant là, il ne va pas voir qu'il y a des chutes absolument spectaculaires, les chutes Kebraskaba, qui sont infranchissables en bateau, mais il ne le sait pas. Donc il arrive sur la côte côté Mozambique actuelle, où de nouveau il va être très 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 bien reçu par les Portugais. Et là, il décide quand même, il a fait une transafricaine, quelque chose d'assez extraordinaire, 18 000 km de côte à côte, et il décide donc de rentrer en Angleterre donc pour porter le fruit de ses travaux. Donc il laisse ses Makololo sous bonne garde, il dit qu'il reviendra les chercher plus tard. Alors il rentre en Angleterre. Alors il avait été un petit peu connu au départ lorsqu'il avait découvert le lac Nami, la première traversée du Kalahari. Il avait envoyé un rapport à la Société royale de géographie qui lui avait déjà accordé un prix, et c'est un petit peu le début de sa célébrité. Le nom de Livingston commence à vouloir dire quelque chose. Mais là, après avoir évidemment de Saint-Paul de Luanda, il a envoyé des dépêches vers l'Angleterre. Et quand il arrive de l'autre côté à Quelimane, il va envoyer encore des dépêches, ce qui fait que lorsqu'il arrive en Angleterre, il ne s'y attend pas, mais il est reçu comme un héros. C'est un accueil absolument extraordinaire. Les journaux parlent de lui, il y a ses photos dans les journaux, ce qui fait qu'il est reconnu dans la rue, et on dit que c'est un des premiers exemples de ce qu'on fait avec la famille royale. Maintenant, on donne des assiettes, des mugs, des choses avec les effigies des gens. Et là, on va le retrouver partout, sur les manches de parapluie, il va y avoir la tête de Livingstone, sur les boîtes d'allumettes, sur les shops, etc. Il y a du Livingstone partout, c'est une espèce de Livingstomania qui s'empare de l'Angleterre. La reine va le recevoir, Victoria va le recevoir, elle ne recevait pas grand monde en dehors de l'aristocratie, c'est un honneur. Et il va commencer à faire donc une série de conférences, encore une fois, pour intéresser le public anglais à la cause de l'Afrique. Alors, il a une grosse déception, qu'il va d'ailleurs très très mal vivre, c'est que la Société de Mission de Londres, qui le payait jusque-là, lui fait savoir qu'elle cesse ses paiements, parce que si c'est pour faire de l'exploration de l'Afrique et ne ramener aucun converti, il n'y a aucune raison qu'elle continue à le payer. On peut après tout comprendre. Donc, il va malgré tout faire des conférences pour la Mission de Londres, et il leur demande, entre autres expressément, d'envoyer une mission rapidement chez les Makololo, puisque lui n'est pas là. Et puis, il va faire aussi donc, des conférences dans les universités, Oxford, Cambridge, etc., en disant aux jeunes qu'il faut partir en Afrique, qu'il faut aller s'investir en Afrique. Alors, je dis ça parce que c'est des petites graines qu'il va semer et qui vont mal pousser, en quelque sorte. Et puis, il cherche, par ailleurs, des financements pour retourner en Afrique. Et évidemment, ne pouvant plus compter sur la Société de Mission de Londres, il va se rabattre sur la Société Royale de Géographie, qui, elle, n'a qu'à se féliciter de tout le bilan scientifique. Il a fait une cartographie quand même du bassin du Zambèze qui n'existait pas. Donc il a vraiment contribué à faire connaître donc, des zones de l'Afrique totalement inexplorées. Donc la Société de Géographie le missionne pour repartir, mais ça va être une expédition officielle, donc il ne pourra pas vraiment décider de ce qu'il veut faire, pour aller reconnaître donc tout le bassin du Zambèze, et puis surtout les affluents du Zambèze, comme celui-ci, là, qui va être important, qui s'appelle le Shire, S-H-I-R-E, et un autre qui est un peu plus haut, qui s'appelle le Rovuma. Donc il part en Afrique avec cette mission, mais on lui demande d'amener 5 autres blancs avec lui. Et ça ne lui plaît pas parce qu'il n'aime pas être avec... Il est très à l'aise au contact des Africains, qu'il aime énormément, mais il est très susceptible, il ne supporte pas de devoir déléguer son autorité, même de partager un peu, d'avoir des réunions collégiales pour dire ce qu'il veut faire, etc. Donc ça se passe extrêmement mal. Et cette deuxième expédition, il faudrait que je raccourcisse peut-être un peu, qui va durer 6 ans, va être tout à fait catastrophique pour l'image de Livingstone, parce que la moisson scientifique est excellente, il va ramener tout un tas de plantes, de relevés, de tout ce qu'on peut souhaiter. Mais d'un point de vue humain, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, la mission de Londres va envoyer des jeunes gens, des jeunes missionnaires chez les Makololo, totalement impréparé, parce que Livingstone s'était bien gardé de dire qu'il y avait vraiment de la fièvre, le paludisme, la mouche CC, etc. Donc ils vont mourir, sauf deux. La mission qui part chez les Makololo, il y a deux rescapés. Et de son côté, les universités anglaises vont proposer une mission dite des universités, Livingstone va récupérer, va installer dans la vallée du Shire, qui est une vallée infestée de négriers, infestée aussi de moustiques. Et même chose, sauf il va y avoir deux survivants à la mission. Donc ça va terriblement, terriblement ternir l'image de Livingstone, sans compter qu'il a prouvé qu'on ne pouvait pas vraiment... les résultats sont qu'on ne peut pas vraiment naviguer sur le Zambèze et qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où mettre des missions. Donc c'est vraiment un échec assez cuisant. Il revient en Angleterre et comme la première fois, je ne vous l'ai pas dit, la première fois il avait écrit un livre qui était Voyage missionnaire en Afrique du Sud, qui va être un best-seller extraordinaire dans toute l'Europe et en Amérique. Et là, de nouveau, il écrit un deuxième livre qui s'appelle Expédition sur le Zambèze et sur ses affluents, qui va être de nouveau un très très grand succès de librairie malgré tout, parce que ça fait rêver ces histoires d'aventure. Donc il revient en Angleterre et avec une image donc, qui a considérablement changé pour le pire. Et encore une fois, il n'a qu'une envie, c'est de repartir en Afrique. Et alors il fait des pieds et des mains pour trouver donc, une raison de partir. Et là, il arrive, c'est un moment dans les années 1864, à partir de 1860, que les Anglais vont se passionner pour quelque chose dont vous avez certainement entendu parler, qui est où se trouvent les sources du Nil. Donc ça a été le grand sujet de l'époque victorienne, les sources du Nil. Alors il y a eu des expéditions qui sont parties, dont une assez connue, je ne sais pas, il y a 15 jours, je crois que sur une des chaînes, ils ont passé ce film anglais qui est très bon d'ailleurs, les sources du Nil, aux sources du Nil. Il y a eu une expédition anglaise qui était partie avec quelqu'un qui s'appelait Burton et l'autre qui s'appelait Speke, et à un moment donné, Burton tombe malade, donc Speke continue tout seul et va jusqu'au lac Victoria et dit il y a de fortes chances pour que le Nil prenne sa source dans le lac Victoria. Mais Burton, qui n'était pas présent et qui voulait avoir l'honneur de la découverte, dit mais non, on n'a pas prouvé. Donc il y a une controverse en cours qui continue, et personne ne peut résoudre vraiment le problème. Donc on lui dit, on le renvoie en Afrique, cette fois-ci pour cartographier alors toute la région du lac Tanganyika, qui est beaucoup plus haut. Vous voyez, là c'est le lac Malawi, le lac Tanganyika est ici en haut. On lui demande de cartographier la région et tous les affluents et tout le bassin, en somme, hydraulique de ce lac. Et accessoirement, bien sûr, de trouver les sources du Nil, de régler le problème des sources du Nil. Donc il repart en Afrique, et c'est là, dans cette période qui va durer entre 1865 à 73, où au bout d'un an, il part, donc il a une certaine escorte. L'escorte, au bout d'un an, va le lâcher parce qu'il tourne en rond, il ne sait pas très bien où il va, etc. Et les derniers de l'escorte, il y a un petit groupe, il y a 9 fidèles qui vont rester avec lui jusqu'au bout, mais les autres partent avec non seulement le ravitaillement, mais la trousse de pharmacie, où il y avait la quinine, enfin, et tout ce dont il pouvait avoir besoin. Donc il va se retrouver, au bout d'un an, dans le bas du lac ici, Tanganyika, et il ne peut plus continuer, il n'a plus rien, il est complètement épuisé, et à ce moment-là, il va se laisser prendre en main par les caravaniers de la traite orientale, les caravaniers arabo-musulmans qui dévastaient complètement la région. Donc exactement ce contre quoi il se battait. Donc c'est horrible pour lui. Mais ce sont des gens, enfin les chefs de caravane ont un grand cœur. Ils voient un blanc, ils s'occupent de lui, ils vont le soigner. Il y a une médecine arabe qui est tout à fait valable. Et pendant les 4 années qui suivent, il va errer au gré de ses caravanes. Alors chaque fois, il fait des relevés de lacs, de fleuves, etc. Mais il n'est plus maître de ce qu'il veut faire. Et il va, c'est ainsi qu'en... Alors je passe très rapidement, mais il va se retrouver à un moment donné avec les caravanes dans ce petit village tout à fait en haut qui s'appelle Nyangwe, où il va assister... Alors on est déjà en 71, début 71. Il va assister à une scène qui va totalement le bouleverser, et qui est la suivante, c'est-à-dire qu'un matin il se réveille, il entend des coups de feu, il va voir, c'est une petite ville donc, qui est sur le bord de la rivière Lualuba, et c'est le jour de marché, donc il y a des gens un peu partout dans la rue, il y a le fleuve, etc., et des coups de feu retentissent, et puis d'un seul coup il se rend compte que les gens sont systématiquement abattus, donc c'est un véritable carnage. Ce sont les trafiquants, donc les marchands d'esclaves arabo-musulmans, qui pour calmer un peu la population qui ne participaient pas de bon gré à leur sévice, décident de faire un exemple. Et donc, ils vont tuer peut-être 500 à 1000 personnes dans la journée. C'est absolument horrible. D'ailleurs, Livingston, par la suite, fera une lettre qu'un journal américain publiera. Et cette lettre, on dit, a fait plus pour essayer d'arrêter la traite que toutes les actions qui avaient été faites précédemment. Donc là, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il dit, je ne peux plus rester avec ces caravaniers, même si c'est ma vie qui en dépend, je ne peux pas rester avec ces gens qui peuvent commettre des horreurs pareilles. Donc il se dépêche de rentrer à Ujiji, qui était une base sur le lac Tanganyika, tout à fait en haut, là, voilà. Ujiji est là. Et c'était une grande plaque tournante du marché d'esclaves, mais il avait demandé... dès le départ, qu'on lui envoie de temps en temps du ravitaillement et des choses à Ujiji. Donc il se dit, peut-être que je vais trouver donc de quoi survivre à Ujiji. Il arrive à Ujiji vers le 20 octobre 1871 pour se rendre compte qu'il n'a plus rien, que le marchand qui avait ses affaires avait tout vendu. Et il est là. Alors il est couvert d'ulcères des pieds à la tête. Il n'a plus que la peau et les os. Et il a perdu ses dents. Il dira plus tard à sa fille, j'ai le sourire d'un hippopotame. Et il se dit, il écrit dans son journal, j'attends la mort. J'attends la mort ou un miracle. Et le miracle va se produire le lendemain. Parce que le lendemain, il est dans sa case, épuisé, il est allongé, il ne peut même plus vraiment marcher avec ses 2-3 serviteurs fidèles. Et il y en a un qui arrive tout excité, qui lui dit, venez vite, on va vous aider. Il y a un blanc qui vient de rentrer dans le village avec toute une série de porteurs. Et donc Livingston est hissé par ses deux aides, et il voit effectivement un blanc avec un bel uniforme, un casque qu'il a passé à la chaux pour que ce soit plus brillant au soleil. Derrière lui, il y a un grand noir qui balance un drapeau où il y a des bandes et des étoiles que les serviteurs n'ont pas su identifier, mais c'était la bannière étoilée américaine, le drapeau américain. Et derrière, il y a un impressionnant cortège de porteurs avec des caisses, etc. C'est le miracle, c'est vraiment le miracle. Et alors le blanc s'avance vers le docteur Livingston Et c'est là qu'il dit donc la phrase que tout le monde connaît, Dr. Livingstone, I presume. Dr. Livingstone, je présume. Évidemment, il n'y avait pas beaucoup de blancs dans la région. Donc. Et il faut dire que l'Angleterre était sans nouvelles. Ça faisait 4-5 ans pratiquement qu'on ne savait pas où était passé Livingstone. On était sans nouvelles de Livingstone. Alors, celui qui l'a salué de la sorte s'appelait Henry Morton Stanley. Donc, c'est Stanley qui est passé à la postérité, donc le nom de Stanley. Et ce Stanley, donc je n'ai pas le temps de vous raconter sa vie, qui est Dieu sait passionnante, était journaliste pour un journal américain. C'était un jeune homme, il n'avait que 26 ans à l'époque. Il travaillait pour le Herald Tribune, qui était un grand, grand journal américain à très fort tirage. Et c'est le patron du journal qui, flairant un des premiers scoops de l'histoire de du journalisme, lui avait dit un jour « Find Livingstone, allez, recherchez-moi, trouvez-moi Livingstone ». Et il lui avait donné les moyens en conséquence. Et donc Stanley avait fait un périple de 9 mois avant d'arriver à Ujiji sans être sûr du tout de l'y trouver. Mais c'était une possibilité. Et il retrouve Livingstone. Donc c'est extraordinaire. Donc il va s'occuper. Ils vont boire du champagne le soir parce que Stanley avait même enveloppé une bouteille de champagne Sillery, qui est une marque qui existe toujours. Enfin, ils ont changé le nom, mais c'est la même. Et ils vont avoir pendant 3 mois, 4 mois, des échanges absolument extraordinaires. On peut dire qu'il y a entre ces deux hommes, je dirais presque un coup de foudre de l'amitié, parce que d'une certaine façon, Stanley, qui était un enfant de l'assistance publique et qu'il avait très mal vécu, c'était en fait, il était gallois d'origine, mais il se faisait passer pour américain, et il n'avait jamais connu son père, et il trouve dans Livingstone une espèce de figure paternelle. Livingstone avait à l'époque donc 56 ou 7 ans, et Livingstone, de son côté, qui avait eu 3 garçons, mais qui ne les avait pas du tout fréquentés. En plus, c'est une parenthèse, mais son fils aîné l'avait même renié, parce que, bon, pour des raisons je ne vais pas trop développer. Donc il était en manque un petit peu, et il va donc voir un fils en Stanley. Donc il va y avoir une symbiose assez extraordinaire entre ces deux hommes. Au bout de 3 mois, Stanley lui dit « Il faut que vous rentriez en Angleterre, tout le monde vous attend. » Et Livingstone dit « Non, je n'ai pas trouvé les sources du Nil et je ne rentrerai pas tant que je n'ai pas trouvé les sources de... Je n'ai pas résolu le mystère des sources du Nil. » Donc Stanley repart et il va publier un chef-d'œuvre qui s'appelle « Comment j'ai retrouvé Livingstone » qui va être un chef-d'œuvre aussi, enfin, mondial, occidental du moins, qui va contribuer énormément donc à restaurer cette image de Livingstone qui était passé du statut de héros après la transafricaine et puis qui était retombé assez bas après cette malheureuse aventure sur ces années sur le Zambèze et qui là va être un peu glorifié, sanctifié par Stanley qui dit que c'est un saint homme qui s'est battu contre la traite, ce qui était tout à fait vrai. Enfin, il en fait vraiment un portrait et il tombe à un moment où finalement l'Angleterre a besoin de héros, donc tout le monde va s'engouffrer et faire de Livingstone un héros. Alors, pour aller très vite sur la fin, Livingstone donc reste, va encore errer pendant près d'un an à la recherche des fameuses sources du Nil, se retrouve encore une fois malade, sans plus de ressources, etc. Et en avril 1873, il est dans un petit village qui est ici, à Chitambo. Ses porteurs voient qu'il ne peut plus, absolument plus bouger pratiquement, donc il l'installe dans une petite hutte. Et là, le lendemain matin, quand le serviteur y va, Livingstone est à genoux, la tête sur le lit, il est mort. Alors ne croyez pas que l'histoire s'arrête là, pas du tout. Parce que là va commencer la plus extraordinaire épopée d'un cadavre que j'ai connu, au moins. C'est-à-dire que c'est ce petit groupe de serviteurs qui est avec lui savent se rendre compte quand même que c'est un homme un peu exceptionnel. D'abord, ils l'ont vu résister, il a une puissance morale et physique à résister à tous ces problèmes. Et ils se disent, il faut qu'on le rende aux Anglais. Alors on se trouve quand même, vous voyez, à Chitambo, qui est à peu près 1500 km de la côte. Donc, ils vont embaumer Livingstone, c'est-à-dire qu'ils vont l'éviscérer. Ils vont mettre ses viscères sous un arbre à Chitambo, arbre qui a vécu jusqu'en 1913, je crois, où il est mort. Mais à l'époque, donc, Livingstone était connu mondialement. Donc, avec le tronc de cet arbre, on a fait une immense croix qui se trouve, qu'on peut toujours voir, dans la cathédrale de Zanzibar. Zanzibar étant le grand centre de l'esclavage, de la traite négrière. Et L'esclavage a été aboli à Zanzibar, pas l'esclavage, disons, on a fermé le marché aux esclaves de Zanzibar l'année de la mort de Livingston, et on a bâti une cathédrale donc à l'endroit du marché aux esclaves. Et dans cette cathédrale en plein milieu, il y a une immense croix qui est faite donc avec le bois de l'arbre sous lequel les viscères de Livingston sont toujours enterrés. À l'heure actuelle, il y a un monument, c'est dans le nord de la Zambie, et il y a un monument, donc c'est là qu'est mort Livingston. Donc les viscères restent là, mais le corps doit être rapatrié. Donc ils vont le saler, le goudronner même, l'entourer dans une espèce de calicot, et ils vont parcourir dans 1500 kilomètres à pied jusqu'à la côte avec le corps sur les épaules. Et ils vont mettre 9 mois pour ça, c'est-à-dire qu'ils meurent en avril 1873 et ils arrivent donc en mars 1874 sur la côte. Là, ils vont faire prévenir le consul anglais de Zanzibar qu'on envoie un bateau. Le bateau va le ramener en Angleterre et là, il va être enterré. Alors déjà, en arrivant en Angleterre, la Société royale de géographie demande à vérifier que c'est bien Livingston et c'est là que l'épisode du lion va resservir. C'est-à-dire qu'ils vont bien voir que ce cadavre momifié a effectivement l'épaule abîmée et a surtout la tête de l'humérus cassée. Donc on peut authentifier Livingston. Et il sera donc enterré avec les honneurs dans le drapeau anglais, en présence du Premier ministre, etc., dans la cathédrale de Westminster. Stanley arrivera d'Amérique pour porter le cercueil, de même Coswell, qui est toujours vivant, celui le chasseur qui les avait accompagnés au départ, de même que son beau-père Moffat, qui va vivre assez vieux et qui vient aussi à l'enterrement. Et ses 4 enfants sont là, parce qu'entre-temps, j'étais un peu rapidement, mais il a revu Marie, il a réussi à faire notre enfant. Voilà, donc c'est un raccourci un peu. Oui, alors, en conclusion de bilan, disons que le bilan missionnaire de Livingston, vous avez tous compris, n'est quand même pas extraordinaire. Donc, il a fait un seul converti, le fameux roi de Séchelles, donc de Kolobeng.
Qu'il a quitté joyeusement,
en plus, avec quand même quelques remords, parce que le fait de se convertir, on ne se rend pas compte, mais ça impliquait pour les Africains de renoncer aux femmes, c'est-à-dire que la société africaine était polygame. Et la polygamie correspondait quand même dans la structure à une nécessité parce que les chefs disaient il nous faut plusieurs femmes pour s'occuper des gens de passage, pour faire pour le train de vie du monarque. Et en plus, ces femmes, autrement, qu'est-ce qu'elles auraient fait si elles n'avaient pas eu, trouvé un mari. Enfin bon. Donc toucher à la polygamie, c'était vraiment toucher profondément à la structure des sociétés africaines. Et en plus, quand il a prêché dans ce petit village à Séchelles, qu'il a réussi à convertir, et à ses femmes, il a obligé Séchelles de renoncer à toutes ses femmes, sauf à la plus ancienne. Et Livingston, c'est là qu'il a un moment où il se pose un peu des problèmes, parce que toutes ses femmes étaient très très assidues au cours de catéchisme, enfin au cours d'évangélisation, et donc elles vont être envoyées dans leur famille, et elles n'auront plus accès à la religion. Donc c'est quand même un peu à double tranchant. Donc il abandonne Séchelles et on dit que Séchelles s'est rétracté sur son lit de mort. Alors on n'est pas très très sûr, mais c'est la légende, enfin la légende, c'est l'histoire qui dit qu'il se serait rétracté, donc il n'aurait fait en fait aucun converti réel. Ça c'est le bilan missionnaire. Le bilan médical, il a soigné donc apparemment de sida, mais bon avec les moyens du bord. À l'époque on connaissait la quinine, mais on ne savait pas du tout la doser. Et la quinine, prise à très très forte dose, vous rend sourd. D'ailleurs, dans la petite ville de Blantyre, où il est né, dont je vous ai parlé, il y a maintenant un très beau musée Livingston, beau, c'est pas le terme, mais un très intéressant musée Livingston, que si vous avez l'occasion d'aller en Écosse, il faut aller voir. Et ils avaient des affiches, parce qu'il avait fabriqué un petit médicament à base de quinine, où il mettait de la quinine et un laxatif, parce qu'il pensait que quand on avait de la fièvre, la quinine, ça... c'était fébrifuge, mais le laxatif vous permettait aussi de nettoyer les intérieurs. Et on appelait ça le Livingston Rouser, c'est une pilule, donc il y a eu un certain succès qui s'est vendu. Et il y avait écrit sur l'affiche « à consommer jusqu'à ce que la surdité vous atteigne ».« Till death reaches you ». C'est assez surprenant, donc c'était quand même des connaissances encore une fois un peu particulières en médecine. Et puis pour lui-même, il ne pouvait pas faire grand-chose, quoi. Et puis alors le bilan scientifique, par contre, a été tout à fait remarquable. Mais finalement, le grand public, c'est pas ça qui l'intéresse tellement. C'est les aventures de cet homme, c'est la façon dont il s'est conduit à certains moments, c'est après cette héroïsation tardive grâce à Stanley. Mais au point de vue scientifique, si vous voulez, donc, il a quand même... Attendez, c'est ça, pardon. Disons que quand il arrive en Afrique, on connaît ça, quoi. On connaît le Val et l'Orange, et peut-être des gens connaissaient un peu ça, mais autrement, on ne connaît que les embouchures des grands fleuves africains. Donc l'intérieur de la carte, c'était blanc. Complètement blanc. Et donc Livingstone a contribué, vous voyez, à reconnaître quand même tout le cours du Zambèze et à reconnaître certaines rivières de l'autre côté. Ensuite, à faire toute la cartographie des lacs qui est là. Donc ça, c'est le lac Malawi. Il s'appelle Malawi à l'heure actuelle. C'est le lac Nyassa à l'époque. Il a reconnu le lac Banguelo, il a reconnu le lac Muero et il a fait quand même, il a reconnu le Tanganyika. Alors, l'une de ses hypothèses était que le Nil sortait du nord du Tanganyika pour aller rejoindre ces lacs-là. Alors le Nil, on est à peu près sûr que là, c'est le Nil, ici, tout à fait en haut. Mais après, on ne savait pas. Et en fait, l'autre hypothèse était que le Nil pouvait être cette rivière ici, qui s'appelle la Lualuba, parce qu'elle monte, vous voyez, elle monte tout à fait nord-sud. Donc lui avait pour hypothèse que peut-être elle s'incurvait pour aller vers le lac Albert, qui est là. Et en fait, c'est Stanley qui va régler définitivement le problème des sources du Nil en disant que la Lualuba, c'est le Congo. Et c'est lui le premier. Alors Stanley va apporter une grande contribution aussi à la connaissance de l'Afrique parce qu'il va cartographier le bassin du Congo et montrer donc cette rivière Lualuba, ce n'est pas du tout le Nil, c'est le Congo. Et effectivement, le Nil sort du lac Victoria, on le sait maintenant. Et à vrai dire, depuis 1934-35, il y a un Allemand qui a prouvé qu'en fait, il part de plus bas. À l'heure actuelle, on considère que le Nil, les sources du Nil, sont justement pas très loin d'Ujiji. Il ne pouvait pas se douter à l'époque que c'était là. Dans les montagnes, à 2000 mètres d'altitude, il y a une rivière qui contourne et qui va se jeter dans le Victoria et qui serait le Nil d'origine. Voilà, est-ce qu'il manque une partie du bilan
Très
non.
Bien.
Bon, ben alors, on
Merci
s'arrête
beaucoup.
Là.
Merci beaucoup pour cette traversée passionnante de l'Afrique australe à travers la vie de Livingstone, de son parcours chaotique, une vie familiale douloureuse. En tout cas, vous montrez bien dans votre livre pour sa femme, qui est une femme, en lisant votre ouvrage, une femme très attachante, avec beaucoup de tendresse malgré tout pour son mari, malgré tout ce qu'elle a vécu. J'étais impressionné en découvrant la figure de cette femme, et je trouve qu'elle est plus héroïne encore que...
Oui, d'ailleurs, il y a...
Elle accepte beaucoup, elle supporte beaucoup, et elle est toujours avec beaucoup de respect pour lui, hein, finalement, hein. Et puis aussi avec beaucoup de finesse, d'intelligence, c'est très impressionnant.
Et je ne vous ai pas parlé de la mort de Marie, parce qu'à un moment donné, au cours de sa deuxième expédition, il pensait amener sa femme et le dernier enfant, il avait laissé les trois aînés en Écosse. Donc Marie était partie avec lui et cette expédition où il y avait les autres blancs, mais on se rend compte en chemin qu'elle est enceinte, donc il ne veut pas amener une femme enceinte, donc il va la débarquer au Cap et l'envoyer chez ses parents à Kuruman, et il va continuer sans elle. Mais 3 ans après, il y a un bateau qui va aller donc dans l'embouchure du Zambèze, et elle va prendre ce bateau pour rejoindre son mari. Et là, bon, il y a beaucoup d'autres affaires, beaucoup d'autres... histoire qui s'imbrique à l'intérieur, mais disons qu'elle va rester quelque temps, et à ce moment-là, elle est alcoolique. Elle est devenue alcoolique parce qu'elle n'a pas supporté, donc elle s'est fait exiler en Écosse. En fait, c'était horrible. Elle était chez des beaux-parents assez rigides, qui étaient peut-être des gens bien, mais extrêmement rigides, pas affectueux, sous la pluie, le froid, etc. Ça va être terrible pour elle. Qui ne supportait pas le bruit des enfants. Oui, absolument. Les enfants étaient habitués à une vie de plein air, une vie de liberté. Donc ça va être des années très dures pour elle, et elle commence petit à petit à boire. Et Livingstone, on lui dit, mais bon, il n'y croit pas trop. Mais enfin, finalement, elle va le rejoindre, et elle est déjà quand même certainement assez atteinte. Et elle va mourir de la fièvre jaune, enfin, de la fièvre jaune ou du palu, on ne sait pas très bien. Mais elle va mourir dans... Voilà, elle va mourir, elle va le rejoindre sur le Zambèze, ils vont remonter un petit peu, et elle va mourir près de Tété. Et alors, c'est assez intéressant, il y a une journaliste britannique, écossaise d'ailleurs, qui a écrit récemment un livre qui fait un peu écho à celui de... Il y a eu un livre écrit sur Livingston qui s'appelle « À la recherche du docteur Livingston ». Et elle a écrit un livre qui s'appelle « À la recherche de Madame Livingston », qui est passionnant, où elle essaie de retrouver la tombe de Marie Livingston qui a été enterrée donc, dans cette, près de Tété, dans une petite ville. Et c'est dans le Mozambique actuel. Et c'est une région qui a été complètement dévastée par la guerre civile à la fin du XXe siècle. Donc elle se disait, est-ce qu'il va subsister quelque chose? Et elle a retrouvé, alors elle fait tout un périple où elle va sur tous les endroits où est passée Marie, tous les petits villages, etc. Et elle finit par retrouver la tombe de Marie Livingston il y a 5-6 ans, où elle a été déposée un petit bouquet de fleurs, c'est très, très touchant. Et elle dit que le gouvernement de la Mozambique, comme la Mozambique maintenant se porte assez bien, enfin la violence est terminée, a déjà, je crois, tracé une route vers ce petit village et va peut-être essayer donc de valoriser cette tombe pour faire venir des touristes. Mais je n'ai pas cherché à en savoir plus. Mais c'est une fin tragique. Elle avait 41 ans et elle laissait donc... elle avait fait 2 fausses couches aussi. Enfin, elle a été pratiquement continuellement enceinte quand elle était avec son mari. Ça a été vraiment une existence très dure.
Est-ce que vous avez des questions ?
Il y a quelqu'un au fond.
Oui.
Beaucoup plus que ça. Il y a un livre de référence qui est vraiment extraordinairement bien documenté, qui est sorti en 2006 par un universitaire, un historien qui s'appelle Olivier Pétré-Grenouillot, qui a écrit un pavé sur les traites négrières. Et il donne des chiffres beaucoup plus élevés que ça. Je le cite dans mon livre, il y a les chiffres dedans, mais c'est vraiment très élevé. Pétré-Grenouillot lui-même dit que si les Occidentaux, alors il y a quand même quelques aspects positifs à la colonisation, si les Occidentaux n'étaient pas intervenus, toute cette partie de l'Afrique, toute cette région des lacs aurait été vidée de ses habitants. D'ailleurs, Livingston, même entre l'une expédition et l'autre, il repasse par des endroits où il est allé et il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des rafles continuelles, des razzias. C'était horrible. Il raconte le détail que les négriers mettaient le feu autour des villages en laissant juste une petite sortie. Donc les gens se précipitaient dans la sortie et il les capturait au fur et à mesure. Il est parti. J'avais une image pour montrer, je ne sais pas si quelqu'un peut le faire. Je vais pour vous montrer les caravanes qu'il croisait en permanence. Alors, peut-être plutôt dans l'autre sens. Ça va être la dernière image, voilà. Vous voyez, voilà ce qu'il croisait en permanence dans cette région-là. Et les lacs servaient à transporter, on passait le Tanganyika ou on passait le lac Malawi, le Nyassa, pour aller vers la côte, pour déverser donc, des cargaisons d'Africains. C'était vraiment une tragédie pour la région, une région saignée à blanc. Donc je pense que les chiffres sont plus élevés que ça. Et donc le sultan de Zanzibar a fermé le marché aux esclaves, dit-on en geste envers la mort de Livingston. Bon. Mais les centres de traite ont prospéré ailleurs, quoi. C'était un peu symbolique malgré tout.
Il était bien contemporain de René Caillé.
Comment ? Oui, alors Caillé, c'est pas un peu plus tard Caillé peut-être, mais à peu près, oui, ça va être à peu près ça. Et Tombouctou était un gros centre d'esclaves aussi. Hein. C'était, voilà. Ah, c'est avant. Ah, c'est avant. Alors.
Oui.
Oui, alors c'est bien avant Livingston. Oui. Mais là, c'était l'Afrique de l'Ouest où la traite arabe existait depuis le 7e siècle.
Sur la carte d'Afrique, sur la partie droite, les traits bleus montrent tous les endroits où Livingston est.
Voilà, j'avais essayé, c'est pas très clair. Mais voilà, ça c'est le dernier périple. Alors j'ai fait en fait en rouge, donc c'est la première. Il y a eu 3 étapes, si vous voulez. Il y a eu la première fois avec la traversée du Kalahari et puis la transafricaine, ça c'est ça. Ensuite, la deuxième fois, il va revenir et il va explorer toute cette région, le Zambèze, le Chai, le lac Nyassa et le Rovuma. Et il revient la troisième fois, il va emprunter le même chemin à partir de Zanzibar, il va redescendre pour aller donc dans la région. Théoriquement, il devait cartographier cette région-là, le lac Tanganyika, et les lacs annexes, dont le Banguelo et le Morwe. Voilà les trois expéditions.
Bien, écoutez, je vous invite à découvrir ce livre passionnant, hein, cette biographie de Livingstone. Pour ceux qui s'intéressent à Jeanne Casadis, c'est aussi celle-ci. N'hésitez pas, et notamment la figure de la femme de Livingstone. La prochaine rencontre de la librairie, ça sera ici le 23 novembre. On recevra Patrice Alcindor, qui est le président de France Mission. Et donc, on essaiera de voir comment aujourd'hui, justement, hein, la parole des protestants est proclamée dans une mission évangélique, hein, puisque France Mission est une mission évangélique qui a de nombreuses églises en France. Et c'est donc son président qui viendra nous en parler ici le 23 novembre à 20h30. Et puis la dernière conférence, hein, ça sera sur la poésie protestante et ce sera au Capitole au mois de décembre. N'hésitez donc pas à vous fournir le programme, hein, vous trouverez les conférences à l'ES. À Paris, la prochaine conférence à Paris, ce sera avec Bernard Cotteret, et puis la dernière, ce sera avec Pascal Bruckner et Hubert Bost, hein, sur tolérer ou non, jusqu'où on peut tolérer, qu'est-ce qu'il faut refuser de tolérer. Hein. Vous savez que Bruckner a écrit un essai assez brûlant, hein, sur le racisme, la question du racisme imaginaire, hein, comment les musulmans se posent tout de suite en victime, en victimisation, hein, et instrumentalisent justement le racisme, hein, pour lutter contre une certaine liberté de parole, aussi aujourd'hui encore acceptable malgré tout dans notre société. Voilà, donc n'hésitez pas à vous munir de ce programme, hein, et vous retrouverez toutes les conférences de la librairie. Madame Barbier est encore disponible si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Je vous remercie, je vous souhaite à tous un bon retour, et je vous propose de la remercier encore.